en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier votre Académie, et particulièrement Madame Del Sol, qui, elle vient de le rappeler, depuis des années, me fait l'honneur et l'amitié de s'intéresser à mes travaux. Merci de me donner l'occasion de présenter un bilan de mes recherches sur la laïcité, recherches qui ont bénéficié de nombreux apports. Faute de pouvoir les nommer tous, je citerai trois noms de maîtres disparus, le professeur Daniel Robert, à qui je dois l'essentiel de ma formation, les professeurs Jean-Marie Mayer et Émile Poula, spécialistes du catholicisme, qui ont intégré à leur œuvre l'étude de la laïcité. La laïcité est l'objet en France d'un débat passionnel et récurrent. Le laboratoire communication et politique du CNRS a publié une analyse des discours sociaux sur la laïcité. Ses chercheurs examinent les diverses thématiques, la circulation des arguments, les différences entre la controverse à la radio et à la télévision. Beaucoup de leurs propos me semblent pertinents. Cependant, ils distinguent les controverses sociales qui bénéficieraient d'un cadre de référence scientifique, comme le débat sur la bioéthique, et celle telle la laïcité où nous serions dans une pure axiologisation. Avec malignité, je relèverai que l'étude comporte quelques erreurs factuelles et une terminologie parfois imprécise. Il n'est sans doute pas si facile de congédier une démarche de connaissance. Aucun objet n'échappe a priori à l'investigation des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire à l'investigation des sciences morales et politiques. Mon parcours universitaire est donc fondé sur la quasi-certitude qu'une approche historique et sociologique de la laïcité est possible, même si elle se situe toujours en tension avec le débat social. Cette tension, je l'ai vécue fort jeune, puisque lycéen, j'étais impliqué dans la controverse qui a abouti à la loi Debré. Or, le sujet du concours général de 1959 a porté sur le concordat napoléonien. J'ai analysé cette convention non comme un retour à la situation de l'Ancien Régime, mais comme une étape intermédiaire entre les rapports Église-État d'avant 1789 et la construction ultérieure de la laïcité. J'ai appris ensuite qu'un intérêt non scientifique est le plus souvent à l'origine d'un travail de recherche, mais que celui-ci doit devenir l'art de conjuguer ensemble empathie et prise de distance. Je me suis efforcé d'appliquer cette leçon. Ma thèse de doctorat d'État fut soutenue en 1984, au moment où, avec l'échec de la loi Savary, un débat sur la laïcité fort différent de celui d'aujourd'hui était tout autant passionnel. Dans ce travail, l'intuition du lycéen est reprise et la laïcité étudiée moins comme un principe que comme un processus. À partir d'une critique relative de l'école des annales, privilégiant un peu unilatéralement, en mon sens, le structurel et le temps long, la notion de seuil de laïcisation cherche à articuler structures et événements, moyenne voire longue durée du processus laïcisateur, est en cours de l'action. Elle prend sens dans une démarche de sociologie historique. Alors deux seuils sont distingués, un troisième sera établi ultérieurement. La toile de fond du processus de laïcisation est le fait que l'État ne s'estime plus concerné par le salut de ses citoyens. Il régule leurs intérêts sans leur imposer des dogmes. Ces seuils sont différenciés en lien avec des événements structurants et avec l'aide de trois indicateurs. Le premier est la relation de la religion avec des institutions à forte teneur symbolique, comme la médecine et l'école. Le second, la place de la religion par rapport à l'État et à la société. Le troisième, enfin, est le type de pluralisme socio-religieux légitimé par le politique. Le premier seuil de laïcisation est issu des diverses ruptures de la Révolution française et du recentrage de Napoléon Bonaparte. Il en résulte un État de droit et de fait dont tous les acteurs doivent tenir compte, quitte à tenter de l'infléchir à leur profit. Le code civil des Français sépare déjà la législation civile de normes religieuses. Et je rougis d'avoir à dire ça de M. Gentula. En conséquence, la signification du terme même de religion change. La religion n'est plus une institution qui en englobe d'autres souvent embryonnaires, telles la médecine ou l'école. La loi de 1803 sur l'exercice illégal de la médecine, promulguée avant ses progrès scientifiques et techniques, impulse la structuration d'une institution médicale indépendante. Celle-ci induit une mutation dans le rapport à la mort, qui progressivement n'est plus socialement considéré d'abord comme le passage dans l'au-delà, mais avant tout comme la fin de la vie. De même, la création de l'université impériale amorce les conflits ultérieurs par lesquels l'institution scolaire au sens large devient une institution rivale de la religion. Second critère, lors du premier seuil, la religion reste une institution publique qui assure, sous le contrôle et avec la protection officielle de l'État, la gestion de besoins religieux distingués d'autres activités sociales. Enfin, troisième critère, il existe désormais de façon légitime une pluralité d'organisations religieuses. Si le catholicisme est la religion de la grande majorité des Français, les protestantismes luthériens et réformés et progressivement le judaïsme deviennent des cultes reconnus, bénéficiant d'une égalité juridique avec le catholicisme. Ainsi, un pluralisme religieux se trouve porté par le politique. Et le protestantisme, seconde religion, constitue durant tout le siècle l'objet d'attractions et de répulsions hors de proportion avec le nombre de ses adeptes. Cependant, ce pluralisme se trouve surdéterminé par la perpétuation du conflit des deux France qui oppose la France fille aînée de l'Église à celle qui se réclame d'une modernité issue de la Révolution. La succession de régimes, dont les plus longs durent 18 ans, fait que les problèmes religieux et les problèmes politiques restent étroitement mêlés. Gardons-nous pourtant d'une optique manichéenne. Si cléricaux qui étaient dans la mémoire républicaine le règne de Charles X ou les débuts du Second Empire, ni l'un ni l'autre n'ont autorisé la tenue d'assemblées épiscopales. Durant l'ensemble du XIXe siècle, la surveillance des préfets s'est rarement démentie. Dans ce schéma, le basculement vers un second seuil s'opère avec des événements structurants, tels la loi du 28 mars 1882 laïcisant l'école laïque et celle séparant les églises et l'État le 9 décembre 1905. Pour les contemporains, ces lois constituent une part du contexte très conflictuel dans lequel elles sont promulguées. Aujourd'hui, elles paraissent des lois d'apaisement. Comment résoudre cette contradiction ? Peut-être parce que deux conflits se sont superposés. Le premier, resté vif dans les mémoires, porte sur les principes eux-mêmes. L'école laïque, la séparation. Globalement, une France les refuse, l'autre les a inscrits dans son programme. Le second conflit, qui révèle des désaccords entre républicains, porte sur le type d'école laïque et le type de séparation à réaliser. Ce dernier conflit, les deux mémoires, la catholique et la républicaine, se sont implicitement alliés pour l'occulter. Pour pouvoir construire une légende noire ou une légende dorée, chacune a rejeté dans l'impensé le fait qu'au sein même de la rupture laïque, plusieurs représentations de la laïcité se sont affrontées et que la plus libérale l'a emportée. Concernant la législation de l'école publique, cette dernière affirmation semble contredite par la lutte anticongréganiste menée par Jules Ferry avec les décrets de mars 1880. Certes, mais 18 mois plus tard, un rapport indique au ministre que dans les établissements tenus désormais par le clergé séculier, je cite, « nulle part rien n'a été changé dans les procédés et méthodes d'enseignement ». Ce rapport affirme « nous sommes joués ». Et il conclut que la majorité républicaine réclame des mesures plus sévères. Ferry refuse de les prendre. Il se déclare au contraire partisan de la liberté de l'enseignement, met en avant la possibilité d'expérimentation de l'école libre et le risque de, je cite, « religion laïque » qu'entraînerait l'instauration d'un monopole d'État. Et si aujourd'hui il semble naturel que l'école publique ait vaqué le jeudi pour faciliter la tenue du catéchisme, cette disposition suscita en son temps une sourde hostilité. Certains établissements publics firent cours le jeudi, voire même le dimanche matin, avant de subir le rappel à la loi. Il existait des conceptions divergentes de ce qu'impliquait la neutralité scolaire. Celle des anti-jacobins Jules Ferry et Ferdinand Buisson ne présentait aucun caractère d'évidence. Leur conception de la neutralité s'avéra même parfois étonnante. En témoigne la circulaire du 2 novembre 1882 demandant d'enlever les crucifix dans les salles de classe seulement au moment, je cite, impossible à préciser, où tous les hommes de bonne foi reconnaîtront que la place du crucifix est à l'église et non pas à l'école. Fin de citation. En est découlée une pratique du cas par cas qu'un historien japonais, Kiyonobu Date, a minutieusement étudiée pour le département du Nord. Dans la zone ouïère-guédiste, la laïcisation de l'école publique s'opère en quelques années. Dans l'arrondissement de Lille, où la pratique catholique est forte, le crucifix dans la salle de classe, les prières en début de journée, l'accompagnement des enfants à la messe et parfois la récitation du catéchisme sont longtemps maintenus. Voilà de forts accommodements dont le souvenir ne s'est pas perpétué. En 2005, lors du centenaire de la loi de séparation, une caricature se trouvait omniprésente dans les différentes expositions. Elle représente Émile Combes tranchant avec un glaive les liens qui unissent un prêtre et Marianne. Elle perpétue ainsi la légende que le président du Conseil du Bloc des Gauches serait l'auteur de la loi de 1905. En revanche, je n'ai jamais vu exposer une autre image de l'époque où Aristide Briand déclare au même personnage, un prêtre et Marianne, « Puisqu'il le faut, séparez-vous, mais tâchez de rester bons amis ». Cette caricature, aujourd'hui ignorée, correspond pourtant davantage à l'esprit de la loi. Esprit peu compréhensible à l'époque, car la séparation semblait représenter le couronnement de la lutte anticléricale qui, suite à l'affaire Dreyfus, s'était radicalisée. Pourtant, dès 1906, certains prirent la mesure de la mutation effectuée, tels les cardinaux verts, les membres des différentes académies, qui écrivirent respectueusement aux évêques « La loi de séparation nous permet de croire ce que nous voulons et de pratiquer ce que nous croyons ». À partir de la méthode de Max Weber, dite de l'idéal type, je différencie quatre représentations de la laïcité aux prises en 1905. La première, anti-religieuse, est soutenue par Maurice Allard. Le député du Var veut une séparation apte à diminuer, je cite, « la malfaisance de l'Église et des religions ». Son contre-projet, que Briand qualifie de « suppression de la religion par l'État », est très nettement rejeté. Par ailleurs, après que la proposition de la Commission ait supplanté le projet de loi d'Émile Combes, le Parlement repousse tous les amendements déposés par les radicaux combistes qui auraient empêché les églises d'ester en justice contre l'État, limité les manifestations extérieures de la religion ou interdit dans l'espace public le port de tenues ecclésiastiques. Ce dernier amendement visait la soutane, considérée comme un vêtement plus politique que religieux, un signe de soumission, une gêne pour penser librement, un acte de prosélytisme et d'hostilité à la République. Autoritaire, cette seconde conception de la laïcité prend la suite du gallicanisme séculaire de la monarchie. Buisson et Briand, président et rapporteur de la commission parlementaire, ont façonné ensemble la loi de 1905. On en connaît les principes essentiels énoncés dans les deux premiers articles. Liberté de conscience, libre exercice du culte, fin du concordat et du régime des cultes reconnus, abolition du budget des cultes et du subventionnement public. Mais on sous-estime encore souvent aujourd'hui le conflit sur l'article 4 qui manifeste la réponse divergente des deux hommes au problème essentiel de la dévolution des édifices religieux. Pour Buisson, l'État ne reconnaissant plus l'Église catholique en tant qu'entité officielle, mais des citoyens français catholiques, ces derniers exercent leur liberté sur la base de l'association libre et volontaire. L'organisation collective de la religion s'inscrit dans le prolongement de la liberté de conscience individuelle. c'est une laïcité séparatiste stricte. Au contraire, Briand déclare « les organisations religieuses ont des constitutions ». Et la neutralité de l'État consiste à ne rien faire qui soit une atteinte à leur libre constitution. Là, la liberté de conscience comporte une dimension collective. Les associations cultuelles doivent, je cite l'article 4, se conformer aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, cela pour obtenir la dévolution des édifices du culte. Pour les catholiques, ces associations devront être en conformité avec la hiérarchie. Cette laïcité séparatiste est plus inclusive. Quand Rome condamne la loi, par crainte d'un effet d'entraînement plus qu'à cause de son contenu, comme l'a montré l'historien Maurice Larkin à partir des archives du Vatican, l'article 4 aboutit à un paradoxe. Dans l'affaire de Torcy, le Conseil d'État donne tort à l'abbé Jouy, qui veut se conformer à la loi de 1905 et créer une association cultuelle, alors que le pape l'a interdit aux catholiques. On est loin du républicanisme classique, et ce n'est pas un hasard si la formulation de cet article 4 a été trouvée par un fils de pasteur, Francis de Pressensé, dans la législation anglo-saxonne. Effectué en 2004 le bilan d'un siècle de laïcité française, le Conseil d'État affirme que la loi de 1905 se situe dans la filiation de John Locke. Dans l'imaginaire national, elle est plutôt issue de Voltaire. Mais à l'époque, un membre de la commission parlementaire témoigne, dès les débuts des travaux de la commission, Briand fit prévaloir la formule « organiser la liberté » aux dépens de celle qui dit « écrasons l'infâme ». Reste que la logique dominante instaurée est celle d'un second seuil de laïcisation, où, si la médecine et l'école sont devenues des institutions à part entière, porteuses de certaines obligations sociales, il n'en est plus de même de la religion. Celle-ci peut fonctionner en interne comme institution. Ainsi, les tribunaux civils tiennent compte du droit canon s'ils doivent se prononcer sur un conflit interne à l'Église catholique. Mais la religion doit socialement prendre une forme analogue à l'association. Elle n'assure plus un service public. Et Émile Poulla aimait à dire qu'elle est passée d'un statut de droit public à un régime de liberté publique. Selon lui, cette sortie du gallicanisme s'est globalement avérée une réussite. Un pluralisme ouvert, qui englobe le droit de croire et celui de ne pas croire, a été instauré. La sociologie historique ne se borne pas à proposer une grille d'interprétation du passé. Elle tente de l'appliquer également aux situations d'aujourd'hui. En 1988, Henri Mandras publie un ouvrage qui devient rapidement un classique, « La seconde révolution française ». Pour ce sociologue, on assiste entre 1965 et 1984 à la fin des structures d'autorité, ce qui réaliserait les idéaux révolutionnaires de liberté et d'égalité. Ce diagnostic optimiste s'en tient en matière de laïcité à la fin du conflit des deux France. Rien n'est indiqué sur l'islam. Je propose de décaler un peu les dates charnières et de les relier à des événements structurants. De 1968, mai 68, à 1989, première affaire de voile islamique et chute du mur de Berlin, une importance identique étant accordée aux deux événements par les médias, en passant par 1975, la fin des Trente Glorieuses, la réforme Habit, la mutation de la présence musulmane en France, de 1968 à 1989 donc, il s'est effectivement produit des changements structurels qui ont modifié le rapport à l'autorité. Selon ma perspective, ces changements font émerger un troisième seuil de laïcisation qui constitue toujours le contexte actuel. Au processus laïcisateur du premier seuil, à l'établissement de la laïcité du second, succède une laïcité sécularisée en un temps où la sécularisation s'est elle-même routinisée et désenchantée. Les trois critères définissant les seuils peuvent être repris. D'abord, la médecine et l'école, institutions porteuses d'espoirs symboliques séculiers, sont atteintes comme structures d'autorité. Elles sont atteintes par le déclin de la croyance sociale en la conjonction des progrès. Les attitudes de déférence tendent à être remplacées par des stratégies dites consuméristes. Ensuite, dans ce contexte, la revendication de droits à l'intérieur de ces institutions se développe. Certains de ces droits présentent une connotation religieuse. Des identités spécifiques sont conçues comme des ressources culturelles, voire comme des recours. Enfin, les frontières historiquement construites entre le religieux et le non-religieux s'euphémisent. Des croyances mêlent divers ingrédients symboliques. Un pluralisme éclaté se développe, en lien avec un double mouvement de massification et d'individualisation. Les analyses du philosophe de la culture Raffaele Simone sur l'hypertrophie du voir peuvent être illustrées de façon saisissante par l'étude de la laïcité. Depuis 1989, les affaires liées aux tenues dites musulmanes de certaines jeunes filles et femmes ont été récurrentes. Quelques jalons peuvent être rappelés. Avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989, qui déclare le port de signes religieux à l'école par les élèves compatible avec la laïcité s'il ne s'accompagne pas de comportements ostentatoires. Circulaire Bérou du 20 septembre 1994 qui fait glisser l'aspect ostentatoire du comportement au signe. Loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes religieux ostensibles par les élèves à l'école publique. Loi du 11 octobre 2010 interdisant le port du voile intégral dans l'espace public. Affaire de jupe longue dans certains établissements scolaires depuis 2011. Circulaire Châtel du 27 mars 2012 visant les mères de famille accompagnatrices des sorties scolaires qui portent un foulard. Dans cette énumération, on est frappé par le nombre de mesures qui concernent l'institution scolaire et inversement par l'absence d'une mesure phare sur la médecine. Pourtant, lors de la commission Stasi de 2003, certains sages avaient jugé la situation à l'hôpital tout autant préoccupante qu'à l'école. Et là encore, il était question de vêtements, plus précisément du refus de certaines patientes de se dévêtir devant des médecins hommes. Mais dans la logique de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, l'institution médicale a tendanciellement choisi l'accommodement, distinguant nettement les situations d'urgence et les autres. L'enquête menée par deux sociologues, Christophe Bertossi et Dorothée Prudhomme, sur les hôpitaux de la région parisienne, montre que globalement, cette stratégie a produit un apaisement. À l'école, au contraire, le conflit perdure. La loi de 2004 a déplacé les enjeux. Les signes interdits avaient été explicitement nommés par la commission Stasi. Or, aujourd'hui, d'autres vêtements sont considérés comme un détournement de la loi. La loi ne concernait que les élèves. Or, malgré le rapport du Conseil d'État du 22 décembre 2014 indiquant qu'elles ne sont pas des collaboratrices occasionnelles du service public, les affaires concernant les accompagnatrices des sorties scolaires n'ont pas été réglées. Plébiscitée de l'extrême gauche à l'extrême droite, la laïcité constitue plus que jamais un enjeu fort entre différentes représentations. Toujours en utilisant la méthode de l'idéal type, je retrouve les quatre laïcités aux prises en 1905. Elles ont adapté leur contenu au changement de contexte. Il existe toujours une conception de la laïcité qui la perçoit avant tout comme le refus de la religion. On la trouve chez Michel Onfray, c'est aussi la posture de Charlie Hebdo. On la rencontre dans la vie courante quand certains déclarent « Je suis très laïque, je n'ai même pas été baptisé » ou d'autres affirmations du même ordre. Battue en 1905, l'optique gallicane est toujours restée forte chez beaucoup de militants laïcs. Elle a nourri longtemps la revendication du monopole de l'État sur l'éducation. Quand il fut chargé du dossier, feu le Haut Conseil à l'intégration publia un historique de la laïcité, la situant explicitement en filiation avec le gallicanisme monarchique. C'est également la conception dominante du Grand Orient de France qui, en 1989, se prononce pour l'imposition de la neutralité religieuse, entendez vestimentaire, aux usagers du service public. D'autres organisations laïques se situent dans la filiation des laïcités séparatistes. La libre-pensée combat les dogmes religieux en tant qu'organisation convictionnelle, mais polémique avec Michel Onfray qu'elle accuse de vouloir un État athée, et en son temps, polémiquer avec le Haut Conseil à l'intégration. Elle défend une interprétation stricte de la loi de 1905 et engage des actions devant les tribunaux quand elle estime que des atteintes y sont portées, par exemple en ce qui concerne des subventionnements publics. Organisation de masse regroupant plus d'un million de membres, la Ligue de l'enseignement critique également les conceptions antireligieuses et gallicanes de la laïcité et s'inscrit, dit-elle, dans la tradition de Briand et de Jaurès. Elle affirme prévenir en amont dans ses nombreuses activités d'éventuels problèmes par des règles claires, alliant le respect de principes communs et le droit à la diversité. Trois autres représentations de la laïcité sont également actives. En 1945, l'Assemblée des cardinaux et archevêques se prononce pour une laïcité qui reconnaisse l'utilité sociale de la religion et respecte la loi naturelle. Le dissensus actuel portant sur le mariage pour tous montre une continuité dans cette orientation. D'autre part, des autorités d'autres religions campent sur des positions analogues. Cette conception peut être qualifiée de laïcité ouverte. Après le discours du Latran prononcé par Nicolas Sarkozy au début de sa présidence, on a pu croire qu'il partageait une telle représentation. Cependant, l'orientation des débats sur l'identité nationale, la réaction des autorités des six grandes religions présentes en France, rédigeant une tribune commune lors du débat de l'UMP sur l'islam et la laïcité en mars 2011, montre des divergences entre les deux optiques. Je propose d'appeler laïcité identitaire la représentation qui valorise le catholicisme comme marqueur de l'identité française, qui en a une conception plus culturelle que religieuse, qui se méfie de l'islam en tant qu'orthopraxie et, entre guillemets, religion importée. Enfin, le 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le système concordat culte reconnu en Alsace-Moselle, faisant droit à une sorte de laïcité concordataire. Ses partisans pensent qu'elle constitue un modèle face à ce qu'ils qualifient de laïcité messianique. Elle montre en tout cas un paradoxe. La décision du Conseil constitutionnalise l'essentiel des deux premiers articles de la loi de 1905 et déclare légitime qu'elle ne s'applique pas à l'ensemble d'une France indivisible. Quelle représentation prédomine ? À mon avis, les laïcités gallicanes et identitaires pour une laïcité bruyante, celle des affaires politico-médiatiques. En revanche, dans la face immergée de la réalité sociale, celle du non-événement, une laïcité juridique, séparatiste et inclusive, défendue par l'Observatoire de la laïcité, me semble toujours constituer la trame principale de la laïcité française. Une anecdote significative peut préciser ce que j'entends par là. Dernièrement, un journaliste demande à la Ligue de l'enseignement « Quelles atteintes à la laïcité ont lieu dans les activités que vous organisez ?»« Aucune », répond le responsable. « Je vais vous expliquer comment nous résolvons les problèmes en amont. » « Non, indiquez-moi plutôt un organisme qui rencontre des problèmes », demande alors le journaliste. Il est temps de conclure. Un classement peut toujours être critiqué, surtout quand il est présenté sous une forme très ramassée, comme je viens de le faire. Cependant, cette mise en perspective poursuit un triple objectif. D'abord, proposer de périodiser la laïcité française en trois seuils met l'accent sur son épaisseur historique, cherche à lui donner un régime d'historicité, à prendre de la distance face à ce que l'historien François Hartog appelle le présentisme, l'aplatissement du temps. Or, paradoxalement, ce présentisme se conjugue avec une vocation parfois obsédante du passé, souvent à partir de souvenirs mémoriels et non d'une démarche historienne. Ensuite, construire une typologie met l'accent sur le fait que la laïcité se décompose en plusieurs représentations, souvent en conflit et ou en tractation. Là, il s'agit de prendre de la distance avec une vision essentialiste, qu'elle stigmatise la laïcité comme ce fut parfois le cas par le passé, ou qu'elle la sacralise comme c'est souvent le cas aujourd'hui, où certains opposent une laïcité idéale à des religions réelles, comme hier, un communisme idéal se trouvait mis en contraste avec le capitalisme réel. Périodisation et typologie incitent à une réflexion sur les changements et sur les continuités. Nous ne sommes plus dans le contexte international et l'univers mental du grand dictionnaire universel ou d'Émile Combes, qui considérait l'islam comme plus compatible avec la laïcité que le catholicisme. Or, quand il prend connaissance de certains discours d'aujourd'hui, l'historien ressent une très étrange impression de déjà-lu. À plus d'un siècle d'écart, si on remplace congréganiste, jésuite, catholique par islamiste ou musulman, le reste du propos s'avère identique. Les mêmes phrases sur la République menacée par le religieux sont reprises. Histoire d'une République fragile 1905-2015, tel est le titre donné à un ouvrage collectif récent. Pourtant, ce n'est pas la religion qui a tué ni la Troisième ni la Quatrième République. Enfin, ultime considération, déconstruire de façon diachronique et synchronique la laïcité française permet d'effectuer des comparaisons avec d'autres laïcités. Cela à partir de quatre paramètres: la liberté de conscience, l'égalité devant la loi, la séparation, la neutralité. Faute de temps, je me suis abstenu de le faire, mis à part une incise concernant la loi de 1905 et John Locke. Mais le rapport brillant portait un passage consistant sur les laïcités hors de France, qui malheureusement fut enlevé quand l'Assemblée nationale a republié ce texte en 2005. Pourtant, s'il existe indéniablement des spécificités françaises quant à la laïcité n'est nullement une exception française. Elle représente plutôt un enjeu essentiel de toute démocratie. Je vous remercie.
Pour toutes ces précisions sur un sujet très très important en ce moment. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de questions. Je donne d'abord la parole à M. Casanova. Je te donne la parole à la fin.
Merci, madame. J'ai été très intéressé par la précision et l'ampleur de votre exposé qui met, je crois, tous les problèmes à plat. Et la question que je voudrais vous poser, en partant d'une expression de votre conclusion sur la comparaison dans le temps des laïcités, et en comparant la France et les États-Unis, aujourd'hui, les États-Unis, du point de vue de la religion, sont dans la situation de Locke que vous invoquez. D'une certaine façon, à certains égards, le droit constitutionnel américain impose plus de laïcité que le droit français. Il serait impensable aux États-Unis que des écoles catholiques soient subventionnées par l'État. Il serait impensable que le statut de l'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire la persistance du concordat, subsiste. Il serait impensable que des églises soient subventionnées par les pouvoirs publics, comme ils le sont, par l'État pour les cathédrales, par les pouvoirs locaux pour les autres églises. En revanche, il ne viendrait à l'idée d'aucun juge américain de poursuivre une personne qui porte un vêtement particulier. Et on voit que depuis une vingtaine d'années, le problème du voile, du vêtement, est devenu un problème central français. Alors ma question est très simple. Est-ce que c'est un problème religieux ou est-ce que c'est un problème classique de politique, c'est-à-dire une recherche d'homogénéité? Il y a chez les Français une réaction, une volonté d'homogénéité. Le voile trouble l'homogénéité. Et il est poursuivi non pas parce qu'il est religieux, mais parce qu'il est différent. Et est-ce que cela ne traduit pas simplement la difficulté de la société française, c'est-à-dire d'une société non protestante, à ne pas accepter la diversité?
Merci. Xavier Darcos.
Oui, ma question. D'abord, je voulais féliciter évidemment Jean Brobero pour la clarté de sa présentation et en particulier cette capacité à donner des catégories très claires sur ces questions très complexes de laïcité. Ma question s'inscrit quasiment dans celle de Jean-Claude Casanova. Si j'avais su qu'il la poserait, je n'aurais peut-être pas posé la mienne. Tout de même, un mot à propos de cette catégorie que vous avez appelée laïcité identitaire, pour être plus simple, toute la partie où vous dites, au fond, on pourrait remplacer les termes qui étaient utilisés naguère de congrégationnistes par ceux de musulmans, on obtiendrait, au fond, à peu près le même classement. Il me semble tout de même que ce qui fait difficulté dans la relation à l'islam de l'État, ce n'est pas seulement l'hétéropraxie, ce n'est pas seulement une allogénie, c'est pas sa nouveauté, c'est qu'elle contient ce que ne contenait pas, me semble-t-il, la pensée catholique de la fin du XIXe siècle, c'est cette idée que la loi religieuse l'emporte sur la loi publique. Et toutes les questions qui ont été posées, auxquelles j'ai, dans ma carrière, été souvent confronté, y compris à la loi de 2004, elles étaient souvent liées à, non pas tellement au fait que des personnes voulaient s'habiller de telle ou telle manière, mais que ces tenues s'accompagnaient de refus de se soumettre à la règle commune, par exemple à des types de cours, types d'enseignement, visites médicales, cours de musique, que sais-je. Et donc, il me semble que dans la difficulté particulière qu'a présenté marginalement, ce n'est pas l'islam, c'est une forme d'islamisme, dans la difficulté particulière qu'a représentée l'hétéropraxie de l'islam par rapport à l'État, c'était cette idée que pour être conforme à sa religion, il ne faut pas obéir à l'État. Et il me semble qu'il n'y avait pas complètement ça, c'était presque à l'envers chez votre député du Var, mais il n'y avait pas complètement ça quand même dans les conflits des années 1880. Enfin, me semble-t-il, j'aimerais avoir votre avis sur la question.
Merci, monsieur Jean Ménard.
Merci, madame la présidente. Il m'a toujours semblé que la laïcité était une des notions les plus confuses qui soient. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais peut-être sortir de mon ignorance. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai reçu beaucoup de lumière, mais sur un fond déjà connu. Je crois, mais alors j'ai quand même des explications nouvelles pour ce qui est de cette confusion. Je crois que la laïcité, c'est un terme qui appartient à plusieurs langages. Et dans chaque langage, il a un sens particulier. Et c'est justement cette complexité du terme qui fait... Et si l'on ajoute que le terme de laïcité a aussi du rapport avec la vie intellectuelle en général, et ça complique encore. Et si l'on tient compte des diverses nations qui ont à s'interroger sur un problème comme de la laïcité, c'est la même chose. Qu'on dise la prière en commun en France, ça paraîtra absurde dans un régime étatique, mais ça paraît normal aux États-Unis. Nous avons donc... Il y a des différences individuelles. Alors, je dirais que les différences fondamentales, c'est que c'est un problème à la fois individuel et collectif. Et selon que l'on se place sur le terrain individuel ou sur le terrain collectif, ce ne sont pas les mêmes problèmes que l'on rencontre. Et à ce moment-là, les complications se situent autrement. Et que ce qui était compliqué d'un côté ne l'est pas de l'autre. Et inversement. D'autre part, vous êtes défini au début comme un historien sociologue. Je me suis dit, comment peut-on associer deux termes aussi contradictoires ? Eh bien, en effet, on ne peut pas être à la fois en même temps historien et sociologue. On est l'un ou l'autre. On peut être sociologue sur support historique ou historien sur support sociologique. Mais cela, c'est un peu autre chose. Envisager le problème de la laïcité en historien, c'est tenir compte de l'état général du pays, du moral, en somme, de la nation, à une époque donnée. Et puis, alors, le point qui me paraît le plus important à souligner, et qui est cette fois-ci, à mon avis, une véritable lacune dans ce que nous avons entendu, dont je ne sous-estime pas la valeur, c'est que c'est le mot « humanisme ». Ce mot n'a jamais été prononcé. Or, il y a une face humaniste de la laïcité. Et une face humaniste qui pourrait se distinguer d'une face spirituelle. Parce que l'élément spirituel peut être aussi exactement présent, même dans un cadre qui n'est pas religieux. Et nous avons entendu récemment, à votre place où vous étiez, quelqu'un qui avait une forte spiritualité tout en étant incroyant et se déclarant athée. Donc, là encore, nous sommes en face de situations complexes. Alors, je dirais que l'humanisme, il y a des apories de la laïcité, des apories au sens platonicien du terme de la laïcité. Par exemple, une femme croyante qui porte une croix, c'est illégal. C'est illégal, alors qu'il y a 50 ans, ça paraissait tout à fait normal et ça ne choquait personne. C'est une absurdité, dirais-je, une absurdité. Mais cette personne, cette incroyante, c'est celle qui se sent gêné par la présence de cette croix, sera tout à fait, se considérera comme ne violant pas la laïcité lorsqu'elle méprise cette personne, lorsqu'elle méprise intérieurement et même extérieurement cette personne qu'elle considère comme méprisable parce qu'elle est incroyante. Donc nous sommes dans des domaines où nous sommes sur le terrain de l'humanisme et il faut tenir compte aussi de cette situation. Nous sommes dans le rapport de la vie quotidienne, de la vie courante, et c'est également un terrain à explorer. Merci, excusez-moi, merci pour ce que vous nous avez apporté.
Merci, monsieur. C'est peut-être moi qui vous ai mal présenté en vous présentant comme historien sociologue. Vous pouvez très bien récuser cette appellation. Alors, il y a encore deux questions. Monsieur Baudemet.
Merci, madame le président. Merci beaucoup de ce très bel exposé. Nous en avions parlé tout à l'heure. Je relis un peu ce qui vient d'être dit. La laïcité, vous en avez cherché différentes notions, des seuils de laïcité qui cheminent dans l'histoire. Je reviens à un terme qui n'a peut-être pas été très prononcé, qui est celui de liberté religieuse. Dans cette chronologie que vous avez rappelée, la liberté religieuse apparaît d'abord dans le droit positif et dans le droit constitutionnel. Elle est dans la Déclaration des droits de 1789, liberté d'opinion, même religieuse, qui est d'ailleurs une concession aux autres religions. Et la religion catholique n'en voulait pas, parce que ça allait de soi, il y allait avoir la constitution civile du clergé, etc. Mais enfin, elle est inscrite dans notre déclaration des droits, elle est inscrite dans le bloc de constitutionnalité. Le mot de laïcité n'est pas dans la loi de 1905, même s'il est très présent dans les débats. Il apparaît dans la constitution de 1946, mais on précise immédiatement « la France respecte toutes les religions ». Reprenant l'article 1er de la loi de 1905, qui est le seul qui a été véritablement constitutionnalisé. Donc ce que je voudrais, sur lequel je voudrais avoir votre opinion, c'est qu'il me semble que finalement la laïcité apparaît comme une modalité de la liberté religieuse, qui est un principe constitutionnel, qui est un principe constitutionnel qui nous lie aussi également sur le plan international, et d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que la laïcité à la française était compatible avec la liberté religieuse sous ces deux aspects, liberté de conscience absolue, liberté de manifester sa religion, sauf l'ordre public, ou ce que M. Casanova appelait l'homogénéité sociale, c'est la limite dans les manifestations d'ordre public. Bon, donc tout ceci est un bloc conventionnel et constitutionnel qui nous lie, et finalement, dans la mise en œuvre de cette exigence, les choses ont varié. Vous avez rappelé qu'il y avait effectivement un service public salarié, un budget des cultes jusqu'en 1905 pour le culte catholique. Il n'y en a plus à partir de ce moment-là. Donc il y a une autre modalité finalement d'aménagement de la liberté religieuse, mais la laïcité, je voudrais avoir votre opinion sur ce point, nous en avons déjà un petit peu parlé, m'apparaît comme une modalité finalement de cette de mise en œuvre, modalité constitutionnelle elle-même, de cette mise en œuvre de la liberté religieuse. Alors quel est le contenu propre de ce principe de laïcité? Là vous l'avez, je vous rejoins absolument, rappelé, le Conseil constitutionnel l'a précisé. C'est l'article premier qui est au fond le rappel de la liberté religieuse sous ces deux aspects, je le disais tout à l'heure. Et puis quant à l'article 2, c'est effectivement l'interdiction de reconnaître un culte, d'où la neutralité de l'État vis-à-vis de tous les cultes. C'est deuxièmement l'interdiction de salarier un culte, la première rédaction de la loi de 1905, c'était supprimant le budget des cultes, avec cette exception introduite au nom de la tradition républicaine que vous avez rappelée pour l'Alsace-Moselle. En revanche, l'interdiction de subventionner, ça n'a jamais été que législatif. Et la loi de 1905 elle-même prévoit toute une série de mécanismes de subventionnement auxquels on a ajouté par la suite. Dernier point, il me semble que dans cette recherche du traitement des différents cultes, dont la sociologie évidemment s'est modifiée au cours des siècles, il n'y a pas d'obligation d'égalité. L'égalité, c'est des citoyens à l'égard desquels on ne peut pas faire de discrimination en raison de leur religion. En revanche, il y a une obligation de neutralité qui implique de ne pas reconnaître un culte, mais qui justifie des traitements financiers, matériels, en termes d'immobilier, différents selon les époques, différents selon la nature de ces cultes, d'où d'ailleurs les mécanismes qui ont été recherchés actuellement pour permettre le financement de mosquées, etc. Voilà, donc je voudrais avoir votre opinion sur cette vision qui est peut-être un peu étroitement juridique, mais qui, je crois, se relie assez bien à ce que vous avez dit tout à l'heure, et je vous en remercie beaucoup.
Merci. Il reste une question, Philippe Levillain. Oui, ah, d'accord. Allez-y, Philippe.
Oui, mon cher Jean, merci. Tu m'as permis de relire oralement les trois seuils de la laïcisation que j'ai lus avant.
J'ai oublié.
Mais je peux parfaitement saisir la parole.
Non, allez-y. Non, c'est pas...
Alors, tu as parlé de ton enfance, je vais parler de la mienne, dans ce sens que tu as découvert la question de la laïcité avec la loi Debré. Je l'ai découverte, moi, au lycée Michel de Montaigne, où j'étais étudiant, enfin, lycéen, entre 1949 et 1956, avec le combat qui était littéralement digne de Don Camillo, entre l'aumônier qui est devenu cardinal archevêque de Rennes, Monseigneur Gouillon, et le proviseur qui était connu, comme il disait, pour un franc-maçon notoire. On dit toujours, d'ailleurs, il est connu comme un franc-maçon notoire. C'est une chose qui m'a toujours un peu stupéfait. Bon. Et donc je me suis penché ultérieurement sur la racine du mot laïc, tout de même, qui finalement vient du mot lait, la Y, signifiant dans la chrétienté médiévale, celui qui ne parle pas le latin, opposé à la caricature. Donc la majorité des Français étaient laïcs, quoi qu'il y eût beaucoup de gens dans la caricature à l'époque où l'Église bénéficiait de bénéfices. Donc, la question aussi que je me pose, et que je me pose pour la première fois, est qu'il y a eu peu de conflits à cet égard entre ceux qui ne parlaient pas latin et qui récitaient le latin, psalmodiaient le latin, hein, y compris le credo nicée. Bon. Et puis l'apparition du protestantisme, des religions protestantes, marginalement, mais petit à petit. Est-ce que la laïcité ne naît pas des guerres de religion, avec la composante très nouvelle dans tes seuils divers que tu exploites là, de l'altérité, de quelqu'un qui dans le dogme ne pense pas selon le dogme, mais pense selon son dogme en interprétation herméneutique, exégétique différente. C'est une première question. La deuxième question est plutôt un désaccord avec toi, si tu me permets, à propos de la façon dont le Second Empire et les débuts de la Troisième République ont traité, je dirais, l'Église catholique romaine. Tu dis qu'il y a eu un normal encadrement, qu'en gros, les réunions de la personne étaient interdites, c'est-à-dire que ça posait un problème aux associations religieuses, etc. Moi, je pense que le cléricalisme, dans sa première version, c'est tout de même la dénonciation, que je dirais assez juste, de ce qu'étaient les excès de présence de l'Église catholique dans la société française. Je crois que c'est Adrien d'Ancette qui a expliqué dans un livre que dans la résurrection de l'Église dans les années 1830, les ordres religieux, les dominicains, les bénédictins, etc., il y a eu en même temps les constructions d'églises très nombreuses, de blancs manteaux des églises du XIXe siècle, qui sont connues, qui d'ailleurs actuellement sont en vente. Bon. Et il y avait surtout une pression extrêmement forte sur l'éducation, d'où ta pertinente remarque sur le fait qu'il y a une laïcisation de l'enseignement qui est aussi importante que celle de la médecine, dont on parle beaucoup moins. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'assez favorable à l'idée que l'Église au XIXe siècle a simplement fait son travail de restauration. Je dirais qu'elle l'a fait au-delà du possible et du souhaitable, et qu'il en ait résulté les conséquences que nous avons connues par la suite. Donc c'est un point de désaccord. D'autre part, je me demandais si, dans ton exposé, ce que tu pensais, de la fameuse formule qui apparaît maintenant, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Est-ce que la laïcité, c'est mieux, ou ça résume liberté, égalité, fraternité, ou est-ce que ça développe liberté, égalité, fraternité? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un mieux par rapport à ce qu'est l'héritage de Jacobin? Bon. Ou au contraire que c'est quelque chose qui est la seule formule utile pour développer la notion de liberté. Bref, est-ce que ça veut dire qu'il y a confusion dans les trois termes précédents, ou simplement qu'on la rajoute parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu penses, question de la phrase qui a été prononcée récemment par un homme politique connu, donc je ne citerai pas le nom, « Aucune religion n'est au-dessus de la République ». Que faut-il en penser ? Aucune religion n'est au-dessus de la République. Je demande ce que tu en penses, toi. Enfin, tu ne t'étonneras pas que je termine sur deux points qui concernent la papauté. Le premier, c'est pour dire qu'on se méprend sur la déclaration Dignitatis Humanae de 1965, qu'on appelle la déclaration de la liberté religieuse par l'Église romaine. C'est une déclaration qui s'inscrit dans les accords de Helsinki qui ont permis à l'Église romaine de rentrer dans le concert culturel de l'Europe, qui en fait consiste à dire « Vous nous donnez le droit de croire, comme nous vous donnons le droit de ne pas croire, mais nous vous demandons de pouvoir vous convertir et de croire aussi. » Donc je dirais que c'est une déclaration qui est de type dynamique et mollement offensive, mais qui réclame la liberté plutôt que, finalement, elle la consent. Et que, d'autre part, dernier point, pour ce qui est de la société chrétienne aujourd'hui, il y a toujours une différence dans l'Église entre laïcs et non-laïcs. Il y a, dans la Curie romaine, tout de même une congrégation pour l'apostolat des laïcs. Et René Raymond, qui fut mon maître, était furieux de la première encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, dans le chapitre qui concerne justement les laïcs, dans cette progression fabuleuse, dans une encyclique qui est poétique, qui est lyrique, qui traite en fait de l'amour et de l'Église dans son unité au seuil de l'amour. Eh bien, René Raymond disait, le pape nous prend pour des supplétifs de l'Église. Alors c'est tout de même une chose qui m'a frappé à l'époque, parce que, comme on dit généralement, mon maître était quelqu'un qui, à cet égard, était plutôt un révérend maître qu'un révérend père, mais qui, en même temps, était un homme d'Église. Et gallican, certes, mais quand même très proche de la papauté. Voilà.
Merci, Jean-Jean Issoutou. Je suis désolé d'avoir oublié votre nom.
Je vous en prie, écoutez, non, Madame le Président, j'essaierai d'être aussi bref que possible après un exposé tout à fait lumineux. Je crois que pour un sujet pareil, il faut être certes historien, mais aussi sociologue, juriste, peut-être même théologien, parce qu'il y a des matières mixtes, c'est toute la difficulté, mais enfin, on ne va pas entrer là-dedans. Il y a un terme que vous avez utilisé, me semble-t-il, que j'aimerais peut-être vous demander d'approfondir, ou du moins les interprétations qu'on peut en donner, c'est le gallicanisme, dans l'histoire de la France au XIXe, jusqu'à la loi de séparation, et même, à mon avis, jusqu'à Vichy, s'oppose très précisément à l'ultramontanisme, n'est-ce pas ? Alors, je vais prendre l'exemple le plus intéressant et difficile, et le plus actuel en même temps. Vous avez, dans les pays démocratiques, libéraux, classiques, bon, vous avez des pays à église établie, comme on dit. Le Royaume-Uni, c'est encore le cas. On vient tout récemment d'élire, je crois que son titre, c'est chancelier de l'Université d'Oxford, une personne qui réunit trois caractéristiques qui étaient totalement inimaginables et contre la loi encore au début des années 60. C'est une dame, irlandaise d'origine, et catholique, ce qui était encore interdit à Oxford au début des années 60. Ça, c'est l'Église établie. Vous avez les pays à concordat. L'Allemagne, l'Italie sous un autre biais, sont des pays à concordat. Et puis, vous avez les États-Unis, où jamais il ne viendrait à l'esprit de l'État américain de s'immiscer dans le processus de nomination des évêques catholiques ou autres. Cas français très particulier, puisque après la loi de séparation 1905, très vite les responsables politiques ont compris qu'ils avaient perdu le contrôle sur les nominations épiscopales, et ils n'ont eu de cesse de le récupérer via les accords de 1920, qui ne sont pas des accords théoriques, même s'ils sont informels. Car pour donner la statistique complète jusqu'à nos jours, je ne la connais pas. Et je peux vous dire qu'entre 1945 et 1967, une trentaine de propositions du Vatican pour nommer le digne abbé un tel au siège épiscopal, une trentaine de candidatures représentées par Rome avaient été retoquées par Paris. Bon. Donc on est dans une situation quand même très particulière d'un pays, certes laïque, bon, qui en même temps, au nom de quoi d'accord de briques et de brocs informels, et d'une conception gallicane sur laquelle je vais revenir, s'ingère dans les processus de nomination des successeurs des apôtres. Bon. Alors, gallicanisme, dans ce sens-là, il peut être à prendre dans un sens un peu différent, complémentaire, disons complémentaire de celui que vous me semblez avoir évoqué. C'est ce que les Français auraient voulu être s'ils avaient pu avoir une église gallicane, comme il y a une église anglicane. Alors la question très actuelle, c'est que ça ajoute à tout ça une dimension d'hypocrisie, parce qu'il est évident que la relation de l'État français à l'égard de l'Église catholique est d'une nature très particulière, et que le moule de la laïcité, calculé de façon extrêmement complexe face aux catholiques, est difficile à imposer de la même façon à d'autres religions. C'est, à mon avis, l'une des raisons cachées hypocrite, comme vous voudrez, des tensions actuelles que différents confrères, ont, comme vous d'ailleurs, ont rappelé. Il y a des choses qu'on n'accepte pas, alors qu'après tout, pose pas en soi, dans d'autres pays laïcs, de grands problèmes, comme le voile et autres. Voilà, donc, c'est ce que je vous demanderais, c'est de peut-être creuser un peu, pour nous, si c'est possible, cette question de gallicanisme.
Merci. Merci de répondre à ces questions dans l'ordre qui vous arrange.
Ah, merci, voilà. Ben, merci beaucoup, vraiment, je suis très honoré de vos questions qui enrichissent le débat. Alors, pour certaines, ça me permet de préciser des choses, parce qu'évidemment, mon intervention était ramassée, donc allusive. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement des débats entre nous. Bon. Alors, tout de suite, pour la question de discipline, moi, j'ai au départ une formation d'historien, et je travaille beaucoup dans les archives. J'ai par contre voulu compléter, et je l'assume tout à fait, ma formation par la sociologie, et j'utilise notamment des mises en perspective théoriques d'ordre sociologique, et notamment issues de Max Weber. Et bon, comme j'ai indiqué, j'ai employé là pour la laïcité la méthode de l'idéal type de Max Weber. Bon, ceci dit, j'ai aussi quelquefois fait des enquêtes, et puisque vous avez, Madame Del Sol, rendu hommage à Monsieur Parizeau, j'ai fait notamment une enquête au Canada, au Québec plus précisément, au moment de la crise qu'on appelait la crise de l'accommodement raisonnable entre 2006 et 2009. Et j'étais très heureux d'ailleurs parce que faisant une enquête dans un pays qui n'était pas la France, j'étais désimpliqué du débat très passionnel, du débat canadien très passionnel, et c'était important pour moi dans la mesure où justement un de mes soucis a toujours été, et c'est pour ça que j'ai souvent été à l'étranger pour parler de la laïcité, comment arriver à avoir un parcours académique, un parcours universitaire sur un sujet qui est un sujet très chaud, très passionnel, très idéologisé, où il est difficile de dire quelque chose sans que des journalistes ou des interlocuteurs en fassent une traduction tout de suite idéologique. Alors, une des questions d'ailleurs que je me suis toujours posée pour essayer de prendre de la distance, c'était de dire, je vois maintenant comment les historiens parlent de 1905 ou de 1882, comment dans un siècle ou un peu plus d'un siècle, les historiens du 22e siècle, du début du 22e siècle, parleront de nos débats actuels sur la laïcité. Alors évidemment, c'est un pari et je ne serai plus là pour voir comment effectivement il en sera question. Mais voilà, c'est une question qui permet d'essayer de prendre un certain recul. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit à un moment qu'on est frappé par une impression de déjà-lu quand on lit ce qui a été dit au moment d'Émile Combes. Et je ne faisais pas allusion forcément uniquement à la laïcité identitaire, je faisais allusion aussi à ce que j'appelle la laïcité gallicane, hein, ces deux laïcités. Ben, quand on voit ce qui était écrit au moment d'Émile Combes, c'était tout à fait, ça ressemblait terme à terme à un certain nombre de propos que l'on trouve aujourd'hui. Et vous aviez tout le temps l'idée que la République était menacée par les congrégations. Et Philippe Le Villain a tout à fait raison de dire qu'il y avait eu un essor des congrégations énorme au niveau du 19e siècle, une influence de ces congrégations, notamment sur l'école, qui était très importante. Et l'affaire Dreyfus avait montré aussi, avec le rôle des assomptionnistes, que ça intervenait dans le jeu politique. Donc la menace était réelle. Mais elle était considérée comme absolument énorme. Aujourd'hui, les historiens, quand ils font un colloque sur la question, ils intituleront leur colloque « La République contre les congrégations ». Ils inversent le titre. Moi, ça me frappe beaucoup. Et plus personne n'aurait l'idée de faire un colloque qui s'appellerait « Les congrégations contre la République ». Parce que, finalement, les mesures qui ont été prises et qui ont abouti quand même, il ne faut pas l'oublier, à l'exil de 30 000 congréganistes hors de France, ce n'est pas mince, sont considérés comme sans proportionnalité avec la menace et justement dans la construction d'un raisonnement juridique, le principe de proportionnalité est un principe très important. Bon. Donc effectivement, j'essaye de voir quelles sont les menaces d'aujourd'hui, les peurs d'aujourd'hui et quel principe de proportionnalité pourrait être appliqué face à ces menaces et à ces peurs. Bon. Alors, là, je rejoins plusieurs questions qui m'ont été posées. Je pense qu'effectivement, il y a en France une recherche d'homogénéité qui est plus une recherche un peu de religion civile que véritablement la laïcité au sens juridico-politique du terme, qui vient du fait que la modernité en France, ou la France moderne, est issue d'un conflit. Est issue d'un conflit. Quand on parle de la Révolution, alors issue non seulement du conflit des deux France, mais après de conflits internes entre gens qui ont instauré la Première République. Bon, si on parle de la Révolution américaine, les pères fondateurs de l'Amérique, on les connaît, ils sont honorés, ils font consensus. Si on parle de la Révolution française, quel est le révolutionnaire qui fait consensus? Lafayette, Mirabeau au début, mais plus ensuite. Danton, mais plus ensuite. Robespierre, mais plus ensuite, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de démolition de la révolution de ses propres enfants qui fait que on trouve non seulement un conflit frontal à partir de la constitution civile du clergé, mais après une multiplication de conflits internes entre partisans de la République, jusqu'à ce qu'un général comme Napoléon Bonaparte ramasse la mise et remette de l'ordre à sa manière avec le consulat. Bon. Mais, si vous voulez, je pense qu'il y a cette relative obsession d'unité qui vient du fait que la modernité s'est établie sur des bases éminemment conflictuelles, et donc on a toujours l'impression d'une fragilité qui m'étonne un peu, parce que je pense que la République n'est pas aussi fragile qu'on le pense, et qu'elle n'est pas aussi menacée qu'on le croit par tel et tel élément. Bon. Alors, j'entends bien, monsieur Darcos, qu'il y a eu, dans les affaires qui ont eu lieu à la fin du XXe siècle et au tout début du XXIe, à la fois signes, tenues et comportements. Mais normalement, moi, ce qui m'a frappé beaucoup, à la fois en tant qu'historien et en tant que citoyen, c'est que le Conseil d'État, justement, avait bien délimité une frontière entre le comportement ostentatoire, qui était répréhensible et qui pouvait permettre de mettre des élèves hors de l'école, hein, et le signe lui-même qui était déclaré compatible avec la laïcité s'il était porté de manière discrète. Or, il me semble que l'éducation nationale, dans un premier temps, a essayé d'être plus stricte que l'avis du Conseil d'État. C'est la circulaire Bérou en 1994. Bon. Suite à la circulaire Bérou, il y a des élèves qui sont exclus des établissements scolaires, et certains proviseurs, moi que j'ai interviewé, m'ont dit on ne voulait pas le faire, mais l'administration de l'éducation nationale nous a demandé de le faire, donc on a obéi à notre administration contre notre volonté. Bon. Moyennant quoi, il y a recours devant des tribunaux administratifs. Ces tribunaux administratifs confirment certaines exclusions d'élèves. Et donc là, il y avait bien effectivement comportement délictueux. Bon. Mais pour la majorité, elle ne trouve pas de comportement délictueux. Le foulard avait été porté de manière discrète. Et donc, elle ordonne la réinsertion des jeunes filles dans les établissements scolaires. Pour les enseignants, c'est une situation impossible à gérer. Ils ont perdu face à des jeunes filles qui, on ne peut pas demander à des adolescentes de revenir de manière discrète et de replacer leur place comme si rien ne s'était passé. Bon. Donc, il y a eu ce premier faux pas où je pense que l'administration de l'éducation nationale n'était pas du tout habituée à ce que la justice intervienne dans ses propres affaires et a été complètement surprise par cette irruption du judiciaire que je relis à ce que j'ai appelé le troisième seuil de laïcisation où effectivement il y a les droits des malades, les droits des élèves, les droits des parents, etc. où il y a l'idée de droit à l'intérieur même des institutions, ce qu'il n'y avait pas au temps de l'école républicaine classique. Bon. Et puis alors, à la fin du 20e siècle, l'administration a été très laxiste. Et il s'est trouvé, moi, que j'ai été conseiller au cabinet de Mme Ségolène Royal. Donc j'ai parlé en tant qu'acteur. Et alors que moi, j'étais plutôt libéral sur ces questions, comme vous le savez, je disais à certains enseignants, mais attendez, là visiblement, effectivement, l'élève n'obéit pas à la discipline, met en question des cours, etc. Vous pouvez sanctionner. Vous pouvez sanctionner. Regardez l'avis du Conseil d'État. Ça, c'est tout à fait dans les cas prévus par le Conseil d'État pour une sanction. Et le professeur me disait, mais non, l'administration me dit tolérer. Bon. Donc, il me semble que il y a eu de la part de l'éducation nationale soit des conduites qui ont été au-delà de l'avis des conseils d'État, soit des conduites qui ont été en deçà de l'avis du Conseil d'État. Bon, là-dessus, il y a eu évidemment le 11 septembre, il y a eu aussi l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, donc il y a eu des conditions politiques qui ont amené la commission Stasi, la loi de 2004, etc. Bon. Mais moi, ce qui me frappe 11 ans après la loi de 2004, c'est que nous sommes toujours dans le conflit au niveau de l'école. Nous sommes toujours dans le conflit au niveau de l'école. Depuis 2011, il y a des affaires récurrentes de jupe longue. Hein. Il y a le conflit des mères de famille qui juridiquement à peu près gagné, puisque le Conseil d'État a dit que, sauf si elle faisait du prosélytisme actif et qu'on puisse dire justement qu'elle troublait l'ordre public, elles avaient le droit d'être accompagnatrices des sorties scolaires. Or, la situation sur le terrain n'a rien changé depuis ce rapport du Conseil d'État. Et en revanche, au niveau de la médecine, où au moment de la commission Stasi, il y avait également des inquiétudes qui s'étaient manifestées, des inquiétudes fortes, au niveau de la médecine, l'enquête des deux sociologues et moi, ce que j'ai pu voir par ailleurs, si vous voulez, alors c'est moins scientifique, évidemment, ce que j'ai fait, parce que c'est plus pointilliste que l'enquête qu'ont fait de ces deux sociologues en région parisienne, mais globalement, la situation s'est calmée. Bien sûr, il peut avoir tel incident à tel hôpital, à tel endroit précis, mais globalement, la situation est calme. Parce que, finalement, on a était dans la logique de la loi de 2002 sur les droits des malades, droits qui ne sont pas illimités, bien sûr, qui ne doivent pas mettre en cause le bon fonctionnement de l'institution, mais on a trouvé, en gros, des accommodements, des aménagements, et l'hôpital fonctionne, et les problèmes de l'hôpital sont d'autres problèmes, évidemment, que ceux-là au niveau... Bon. Donc... voilà, si vous voulez, j'essaye d'analyser ça dans une réflexion sur le devenir des institutions dans une logique que j'appelle celle du troisième seuil de laïcisation, où toutes les structures d'autorité sont contestées et où, donc, c'est plus difficile, évidemment, pour les acteurs de faire leur travail, mais... Et c'est ce que m'ont dit certains médecins. Ils m'ont dit, dans un premier temps, les accommodements, on trouvait que ça nous compliquait un peu la tâche. Et puis finalement, on s'est aperçu que... Enfin, il n'y a pas eu seulement en matière de laïcité, il y a eu dans d'autres matières des accommodements avec les malades, les patients. On s'est aperçu que les patients, du coup, se responsabilisaient davantage et que finalement, au bout du compte, ça nous facilitait la tâche. Dans un premier temps, ça ajoutait un peu à notre cahier des charges et dans un second temps, ça nous facilite la tâche. Bon. Voilà, donc j'ai fait cette comparaison entre les deux institutions parce que ces deux institutions, historiquement, ont été des institutions qui ont toujours eu des liens, disons, avec la laïcité. Et c'est très connu, évidemment, pour l'école, bien sûr. C'est moins connu pour la médecine, mais je vous assure que le passage de la conception de la mort comme passage dans l'au-delà au passage de la conception de la mort comme fin de vie, est passionnant à étudier durant tout le 19e siècle, et qu'il y a beaucoup de conflits entre, justement, les gens qui disent l'importance et l'au-delà, et donc les derniers sacrements, l'administration des derniers sacrements, etc. Et puis les gens qui disent, ben non, l'important c'est de retarder la fin de vie, et donc on va pas annoncer au malade, par exemple, qu'il va mourir parce qu'on a toujours un espoir de guérison, etc. Donc on multiplie le risque, par exemple, de mort sans avoir les derniers sacrements, des choses comme ça. Donc il y a des conflits tout au long du 19e siècle qu'on a un peu oubliés dans la mémoire collective, mais qui ont été importants. Donc voilà, ça fait partie du débat, mais ma petite pierre dans ce débat, c'est de dire qu'une institution est arrivée à résoudre le problème qui lui était posé, une autre institution n'est pas encore arrivée à résoudre ce problème. Comme vous le savez, c'est très difficile, et l'éducation nationale est une institution qui pose de multiples problèmes à ceux qui ont le courage et la ténacité de essayer de la prendre en charge. Alors, sur la devise républicaine, moi je pense que c'est abusif de rajouter laïcité, comme cela a été très, très, très bien dit par M. Godemet. La laïcité est une modalité, la laïcité est un moyen d'arriver à la liberté religieuse. Alors, j'ai pas employé le terme même liberté religieuse parce que, si vous voulez, les juristes sont tout à fait au clair sur lui. Mais moi, dans les gens que j'interviewe, souvent, les gens ont une conception où ils opposent un peu liberté religieuse et liberté de conscience. Ils font comme si la liberté religieuse, c'était uniquement la liberté pour les gens qui ont une religion, pour les croyants. Bon. Alors qu'évidemment, la liberté religieuse est inclue dans la liberté de conscience. Et il n'y a pas d'opposition dans les deux. Et le premier article de la loi de 1905 dit bien que la République assure la liberté de conscience et garantit libre exercice des cultes, sous réserve de l'ordre public énoncé dans la loi elle-même, puisqu'évidemment, la manifestation de l'expression religieuse ou d'ailleurs d'une expression irreligieuse est soumise au jeu des différentes libertés publiques et aux nécessités d'un ordre public démocratique. À ce niveau-là, il y a une remarquable correspondance, d'ailleurs, entre la loi de 1905 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, et, vous l'avez dit, il y a un aspect constitutionnel, un aspect conventionnel dans la laïcité. Bon. Donc la laïcité est un moyen pour parvenir à cette liberté de conscience incluant la liberté de religion, est un moyen non pas pour l'égalité des conditions, mais pour l'égalité devant la loi, ce que vous avez dit quand vous avez dit pour le principe de non-discrimination. Et on peut espérer, mais ça c'est évidemment d'un ordre extra-juridique, qu'une laïcité fondée sur le respect par chacun des convictions de l'autre aide ou contribue à la fraternité, au troisième adjectif donc de la trilogie républicaine, fraternité qui ne se décrète pas, qui n'est pas imposée par la loi et qui ne peut pas l'être, mais qui peut être réalisée. Et là aussi, ne voyons pas uniquement, si vous voulez, les débats récurrents et passionnels. Voyons toute la laïcité immergée, toute la laïcité au quotidien, qui fait qu'un certain nombre d'articles, par exemple de la loi de 1905, je pense aux articles 31, 32 et 33, qui prévoyaient des peines pour les gens, soit qui auraient incité de manière abusive les autres à croire, soit qu'ils les auraient empêchés de pratiquer une religion, ces articles sont quasiment tombés en désuétude assez vite, parce qu'ils ont été intégrés dans la culture commune, et que, à part effectivement un apprenti terroriste comme l'affaire qui a eu lieu il y a quelques mois, il ne vient pas à l'idée des gens, si vous voulez, d'aller troubler des offices religieux ou d'aller imposer à des gens d'aller à des offices religieux. Mais il faut bien dire que... Pardon ? Les phémènes, oui, mais alors, si vous voulez, c'est un retour, effectivement, tout à fait récent, mais pendant un siècle, il n'y a pas eu finalement, les seules occupations d'église, c'était les occupations de sans-abri ou de gens comme ça. Ce n'était pas pour empêcher un office religieux de se tenir ou inversement pour inciter. Donc, il y a des articles qui sont pratiquement tombé en désuétude dans la loi de séparation, mais qui, s'ils existent dans cette loi de séparation, était dû au fait qu'il y avait des incidents à la sortie des églises. En 1904, la France était quand même près de la guerre civile. Alors, je laisse à mon ami le fait de dire la responsabilité du catholicisme dans le cléricalisme. Moi, je me suis fondé sur, effectivement, le politique. J'ai vu ça du point de vue du politique et j'ai tâché de traiter la laïcité dans le cadre d'une histoire du politique par rapport à la religion. Bon, là aussi, si vous voulez, il y avait une menace réelle et il y avait une extension un peu fantasmatique de la menace. C'est-à-dire que l'aspect fantasmatique de la menace, c'est le fait que on sous-estimait l'ampleur des catholiques acclimatés à la République. Parce qu'évidemment, c'était pas les catholiques bruyants, si vous voulez. Mais le fait que la majeure partie des catholiques étaient acclimatés à la République s'est révélé aux élections de mai 1906 après la loi de séparation. C'est-à-dire que c'est là où quand même Briand a réussi son pari en faisant une séparation acceptable par un croyant, quel qu'il soit catholique, protestant ou juif, eh bien, il a effectivement convaincu la majorité des électeurs, c'était que les hommes, effectivement, à l'époque, mais enfin, la majorité des électeurs, qui n'auraient pas peut-être été convaincus par une loi, style le projet de loi des mille combes. Bon. Donc, il y avait, et ça a été d'ailleurs le pari de Jaurès, de dire qu'un certain nombre de catholiques allaient inciter l'Église catholique à se rallier à la République, ce qu'elle a fait déjà fait officiellement avec Léon XIII, mais évidemment, c'était quand même, il y avait du dissensus qui restait. Bon. Alors, si vous voulez, je suis d'accord qu'effectivement, l'enjeu, c'est les lois, mais si on voit la loi de 2004, les autorités musulmanes elles-mêmes ont dit dès le départ qu'elles la respecteraient. Quand elles ont été auditionnées par la commission Stasi, elles ont dit, s'il y a une loi, on la respectera. Et ça a été évidemment, de leur point de vue, une faiblesse, puisque elles annonçaient à l'avance qu'elles obéiraient à la loi. Bon, donc, la loi pouvait être prise sans susciter un conflit très, très virulent. On ne peut pas dire à ce moment-là qu'il y a eu une organisation musulmane importante qui ait prôné la désobéissance à la loi de l'État. Bon. Alors, gallicanisme, il y a le gallicanisme là aussi politique, la politique gallicane de la monarchie et puis un certain gallicanisme politique aussi au 19e et au 20e siècle. Et puis il y a effectivement l'Église gallicane. Alors il y a des liens entre les deux puisque la politique gallicane veut qu'il y ait une Église gallicane et réticente, voire opposée à l'ultramontanisme. Mais évidemment, ce n'est pas exactement la même chose. Et moi, je me suis placé, là encore, du point de vue des politiques, du point de vue de la politique gallicane. Alors, il y a des choses intéressantes que je n'ai pas eu le temps de dire. Par exemple, en 1920, le bureau des cultes regrette qu'il y ait eu la loi de 1905. En disant, avec la loi de 1905, comme vous l'avez dit, justement, le pape peut nommer les prêtres, les évêques, etc. Un moine peut être prêtre, etc. etc. On a perdu les armes qu'on avait pendant les siècles de gallicanisme. Et c'est regrettable qu'il y ait cette loi de 1905, mais maintenant, on ne peut plus revenir en arrière, etc. Bon. Alors, c'est vrai que, et surtout, à mon avis, depuis 1945, il y a des négociations qui se font entre Rome et Paris pour la nomination des évêques et il y a un gentleman agreement. Alors, ça permet de répondre à la question de M. Casanova. C'est vrai que la séparation en France est devenue une séparation moins stricte que la séparation états-unienne. Et Déjà en 1905, peut-être qu'elle n'était pas aussi stricte, ne serait-ce que parce que les édifices religieux étant dévolus aux différentes églises, il fallait bien co-gérer ces édifices religieux, donc maintien de certaines relations avec l'État. Que moi j'ai eu par exemple des collègues américains qui estimaient que la fin de l'article 2 de la loi de 1905, la fin de l'article 2 disant qu'il y a des aumôneries qui peuvent être payées par l'État dans les différents lieux fermés, ils trouvaient que c'était une atteinte à la séparation. Donc là c'était intéressant de voir que justement des Américains reprochaient à la séparation française de pas être assez stricte. Et vous avez tout à fait raison pour la loi de Bray, pour l'Alsace Lorraine. Moi j'ai donné des cours à NYU où justement mes étudiants me taquinaient là-dessus en me disant « Vous les Français, vous croyez être les champions de la laïcité, mais qu'en est-il de la loi de Bray? Qu'en est-il de l'Alsace-Moselle? Qu'en est-il ?» etc. etc. Bon. Mais par contre, alors, la France, depuis une vingtaine d'années, a une conception très extensive de la neutralité qui étonne d'autres pays dans le monde, dans la mesure où c'est plus seulement la neutralité de l'État, mais ça devient, dans certains lieux en tout cas, et dans certains cas, la neutralité d'individus. Bon. Et c'est sans doute ça l'objet du débat actuel. Est-ce que la conception actuelle, socialement dominante en tout cas, de la neutralité, est fidèle à la laïcité historique? Il y a un certain nombre d'associations, de groupements qui répondent oui. L'Observatoire de la laïcité, par contre, lui, répond non et défend une conception de la neutralité qui me semble, moi, plus dans la filiation de la loi de 1905. Voilà en gros ce que je pouvais dire. J'espère que je n'ai pas trop oublié de questions. Alors, simplement, je vais terminer par où j'ai commencé, c'est-à-dire que j'essaye d'être historien et sociologue, mais ça veut dire que je ne suis pas philosophe, monsieur, je ne suis pas juriste, etc. Je lis des philosophes, je lis des juristes, parce que ce qu'il y a de merveilleux avec la laïcité, c'est justement, c'est un objet d'étude qui est interdisciplinaire. Et on ne peut pas, quand on essaye de s'attaquer à cet objet d'étude, ne pas s'intéresser à l'ensemble, je dirais, des sciences humaines et sociales.